Géopolitique, Toufik Benaïchouche.
Bonjour, Géopolitique s'intéresse aujourd'hui à l'Afghanistan. Les Afghans se rendent aux urnes le 20 août pour élire à la fois leur président et les représentants de leur région. Avec nous pour parler de ce pays mouvementé, de cette campagne également très mouvementée, Mariam Abouzahab, chercheure et enseignante en sciences politiques et à l'INALCO, autrement dit aux langues orientales. Et puis également Omar Samad, l'ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan à Paris. Madame, bonjour.
Bonjour.
Monsieur, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors l'Afghanistan qui organise donc des élections le 20 août, ces élections s'organisent dans un climat de violence sans précédent depuis 2001. C'est un État islamique, il est situé au carrefour du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. C'est un pays enclavé également entre trois républiques musulmanes de l'ancienne Union soviétique au nord, avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Il partage également des frontières avec l'Iran à l'ouest, le Pakistan à l'est et au sud, et la Chine à l'est. C'est un pays aride, constitué à 95% de montagnes, un pays montagneux donc, rural, et aussi parmi les plus pauvres du monde. Entre 26 et 32 millions d'habitants en Afghanistan, 42% de la population vit avec moins de 14 dollars par mois. La moitié des enfants sont scolarisés, c'est vrai, mais parmi ceux-ci, on ne compte que 35% de filles. L'Afghanistan n'est pas dépourvu de ressources en charbon, 4% des réserves mondiales, en fer, en cuivre, en pierres précieuses. Il dispose des plus importants gisements au monde, de lapis-lazuli et d'émeraude. Il dispose aussi de gisements de plomb, de zinc, d'étain, de tungstène et de césium. Le pays est riche aussi en gaz naturel et en bois, mais pour jouir de toutes ces richesses, il faut un minimum de paix et de stabilité, ce qui est loin d'être le cas. L'Afghanistan, c'est aussi le premier producteur d'opium au monde. Près de 93% de l'opium mondial y est produit, ce qui rapporte quelques 3,5 milliards de dollars chaque année. Une partie de cet argent, on le verra, sert à financer les talibans. Longtemps, c'est la dynastie Pashtun, des Durrani, qui a régné sur ce pays entre 1747 et jusqu'en 1973, après qu'un coup d'État ait renversé le roi Zahir Shah, qui avait régné donc sur ce pays en avril 1978. Un coup d'État a porté les communistes au pouvoir. L'armée soviétique envahit le pays en décembre 1979. Très vite, elle est confrontée à la résistance acharnée des Moudjahidines. Elle est contrainte de se retirer. En février 1989, le président Najibullah, placé par Moscou au début à la tête du pays en 1986, sera destitué en avril 1992. Et ce sera le début de la sanglante guerre civile entre différentes factions dans ce pays. En 1996, les talibans, formés essentiellement au Pakistan, s'empare de Kaboul. Ils imposent leur interprétation très rigoriste de la charia, de la loi islamique. Ils sont renversés fin 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis pour avoir refusé de livrer les chefs d'Al-Qaïda, les responsables des attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis toujours. En décembre 2001, c'est la conférence de Bonn en Allemagne qui réunit toutes les factions afghanes sous l'égide des Nations Unies et qui installe un gouvernement intérimaire dirigé par Hamid Karzai. C'est un régime présidentiel. La constitution est instaurée en 2004. Hamid Karzai devient le premier président démocratiquement élu en octobre 2004 toujours. C'est donc le 20 août que les Afghans iront aux urnes pour élire, je le rappelle, un président. Il y a 41 candidats en lice pour cette seconde élection présidentielle de l'histoire du pays, seconde élection présidentielle démocratique, et également pour élire les représentants des 34 conseils provinciaux, soit un par province du pays. Depuis quelques mois, les talibans ont juré de tout faire pour empêcher les scrutins. Ils menacent de mort quiconque ira voter. Malgré la présence de plusieurs milliers de militaires étrangers, 100 militaires ont été tués en Afghanistan depuis le début du mois de juillet, ce qui fait de loin la période la plus meurtrière de la guerre, puisque depuis mars, davantage de soldats occidentaux ont été tués en Afghanistan que pendant toute la période qui va de 2001 à 2004. Alors, première question peut-être à vous, monsieur l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris, monsieur Omar Samad. Était-il vraiment judicieux d'organiser des élections alors que la sécurité est loin d'être assurée dans ce pays ?
Écoutez, on a l'ordre constitutionnel en Afghanistan depuis 2004, comme vous l'avez expliqué. Le peuple afghan veut cet ordre et ils veulent aller voter. On a des problèmes dans certaines régions du pays, notamment dans des districts du sud, de l'est, un peu aux alentours de Kaboul. Le reste du pays, bon, est stable pour voter. Bien sûr, de temps en temps, il y a des attaques mais nous ne pensons pas que ça va nous empêcher, aux Afghans, aux millions d'Afghans, des hommes et des femmes, pour aller voter pour la seconde fois dans leur vie, dans l'histoire du pays, pour le chef du gouvernement prochain.
Mais que peut valoir ces scrutins dès lors que tout le monde ne pourra pas aller voter, je dirais, à tête reposée?
Alors je crois que vous allez voir qu'on va avoir un très grand pourcentage des Afghans, peut-être beaucoup plus que ce que vous voyez dans les pays même des démocraties beaucoup plus avancées. Les Afghans sont vraiment... Ils ont l'envie d'aller voter, ça se voit, cette campagne électorale qui se déroule pendant quelques semaines, nous montre qu'il y a un intérêt très très fort de la part de la population pour faire partie de ces enjeux politiques et de la décision nationale pour élire le dirigeant. Le prochain président afghan, et aussi bien sûr cette fois-ci nous avons, comme vous l'avez constaté, les élections provinciales. Alors pour nous c'est très important. Il y aura des efforts de la part des talibans et des groupes terroristes pour empêcher aux Afghans d'aller voter, et ça sera plus prononcé dans certaines régions comme je l'ai dit que d'autres, mais je crois que vous allez voir un très grand nombre d'Afghans, hommes et femmes, le 20 août, allez voter.
Mariam Abou Zahab, tout de même, cette insécurité pose un vrai problème, non? On peut redouter une abstention. Selon la commission électorale indépendante afghane, il y a quelques jours, plus de 10% des bureaux de vote pourraient rester fermés le jour du vote.
Oui, je voudrais nuancer un petit peu les propos de Monsieur l'ambassadeur. On voit certainement beaucoup de gens qui se déplacent pour aller dans des meetings électoraux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils iront voter le jour du scrutin, ni qu'ils iront voter pour le candidat au meeting duquel ils ont assisté. La politique en Afghanistan se passe un petit peu différemment. Il y a encore beaucoup de gens, 20-25% des gens qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter, qui vont se décider au dernier moment. L'insécurité, bien sûr, est très grande. On nous annonce qu'on va fermer des bureaux de vote dans certaines régions pour des raisons de sécurité. C'était le cas, par exemple, même à Kunduz, dans le Nord, qui a toujours été réputé comme calme, alors qu'il n'y avait peut-être pas de talibans à Kunduz jusqu'à une époque récente, mais il y avait des luttes de factions, d'autres problèmes ethniques et autres. Donc, il y avait quand même une insécurité latente. Et on nous dit qu'on va fermer une partie des bureaux de vote, ce qui veut dire que les électeurs devront se déplacer sur de grandes distances pour voter. Et vu les conditions d'insécurité, on peut se dire qu'un certain nombre renonceront. Bon, d'autre part, il y a un certain désenchantement aussi, et beaucoup d'Afghans disent que les jeux sont déjà faits pour les élections présidentielles, puisque ce n'est pas nous qui décidons véritablement, c'est la communauté internationale, ce sont les États-Unis, et les États-Unis ont décidé que ce serait Hamid Karzai qui serait réélu. Donc à quoi sert-il d'aller voter? Nous n'avons pas de poids là-dessus. Pour les élections provinciales, c'est différent, parce que là, il y a des enjeux locaux. Là, on entre dans tout le système afghan de clientélisme, de patronage, donc de savoir pour qui voter en fonction de l'accès de cette personne
au
pouvoir.
Un système très tribal et très ethnique.
Pas forcément tribal ni ethnique, non. Ce sera moins ethnique que l'élection précédente, où là, vraiment, il y avait des candidats ethniques, où les gens ont voté, sont déterminés en fonction de leur appartenance ethnique. Ici, c'est un petit peu plus sophistiqué que cela. Mais pour les élections provinciales, il y a des enjeux, c'est-à-dire on va faire un vote utile. On va voter pour le candidat qui est le mieux introduit dans les réseaux de pouvoir, qui aura donc permettra d'avoir accès à des ressources pour la province. Là, donc les enjeux sont beaucoup plus locaux et très différents. Mais il y a un désenchantement quand même général et une impopularité du président Karzai, parce que la population a l'impression que il a été inefficace. Bon, vous savez bien, il y a le problème de la corruption qu'on lui reproche, et que les principaux candidats, que ce soit le docteur Abdullah ou Ashraf Ghani, insistent énormément là-dessus, sur cette question de corruption. Il y a l'incapacité à protéger la population, et donc l'insécurité grandissante qui lui est reprochée aussi. Et donc, il y a une impopularité. Et on voit qu'il est... il est à l'Afghane, il est très fort dans les négociations, dans les accords passés avec les uns et les autres. Ça, c'est tout à fait le jeu tribal pachtoun qu'il maîtrise. Et il a en fait promis tout à tout le monde. Et donc, comment pouvoir tenir ses promesses après? Bon, il a obtenu des ralliements en échange, on dit, de postes ministériels, en échange de création de nouvelles provinces pour les Hazaras, notamment. Bon, faisant des promesses un petit peu partout, parce que sa base électorale naturelle, qui est la base Pachtoune, dans le sud et dans l'est, sont les régions où il est le plus impopulaire. Donc, il est obligé d'aller un petit peu au-delà. Avec son vice-président Fahim, ça permet un peu de casser le vote tadjik et d'avoir une partie des voix tadjik qui, sinon, serait allée au docteur Abdullah. Bon, on a vu toutes ces négociations, tous ces accords, tout cela. Et ça, les Afghans voient cela et ça les laisse aussi un petit peu perplexes. Et beaucoup se disent pourquoi aller voter puisque c'est déjà décidé d'avance. Alors après, il y a tout le problème aussi de la fraude électorale massive qui se prépare et qui est dénoncée par tout le monde, et notamment toute la question des femmes fantômes. Ça, c'est vraiment un gros problème. On a un nombre d'électeurs inscrits qui est faramineux et qui est peu crédible. On a 5 millions d'électeurs inscrits de plus que lors des dernières élections, plus de 17 millions, c'est pas crédible au niveau de l'Afghanistan. Et on a de nombreuses provinces qui sont en plus les provinces les plus conservatrices qui soient, où vous avez 70% de femmes parmi les nouveaux inscrits. Alors soyons sérieux.
Monsieur l'ambassadeur Omar Samad, vous venez d'entendre Mariam Abou Zahab. Qu'est-ce que vous répondez donc à ces...
Alors tout d'abord, je veux dire que le but pour nous tous, les Afghans et ceux qui, nos amis internationaux qui nous aident, c'est d'avoir des élections qui sont crédibles, qui sont bien sûr honnêtes et transparents et justes. Ça, c'est le but pour tous les Afghans et je pense qu'on essaye d'achever ce but. Alors, de dire que cette élection est décidée d'avance et que les Afghans y pensent, c'est un peu généralisé. Je ne sais pas, madame, d'où vous trouvez ce contexte, mais c'est la première fois que ce sont les Afghans qui sont au contrôle de ces élections. Les commissions sont tous des commissions afghanes. Le contrôle, c'est un contrôle afghan. Même la sécurité, bien sûr qu'il y a les troupes étrangères de l'OTAN et des autres qui sont au second rang, mais au premier rang, ce sera les Afghans. Partout, ce sont les Afghans qui vont faire les comptes. Il y aura
aussi des observateurs internationaux.
Il y aura des observateurs de tous les partis politiques sur chaque région et sur chaque boîte. De dire que c'est décidé d'avance, c'est exagéré, je suppose, c'est pas très correct et ça donne une impression d'avance, un peu trop tôt de tirer des conséquences qui sont pas exactes. Ce qu'il faut dire, c'est que il faut encourager l'Afghanistan à prendre ses pas vers la démocratie afghane, une démocratie qui marche pour nous, avec une base, bien sûr, des principes démocratiques. Et l'Afghanistan, c'est une démocratie jeune. C'est pas la France, c'est pas la Norvège, c'est pas le Canada.
C'est un long apprentissage.
Apprentissage. Et on va tomber de temps en temps, on va se relever, et on va marcher en avant. Ce qui embête les Afghans, bien sûr, c'est la continuation des activités des terroristes et des talibans et tous ceux que des réseaux à l'intérieur du pays et les réseaux qui leur fournissent les moyens à l'extérieur du pays qui continuent à empêcher à l'Afghanistan à se développer d'une façon beaucoup plus efficace. Bien sûr, le gouvernement a des faiblesses. Le président l'avoue aussi. Oui, bien sûr qu'on a beaucoup de défis devant nous et on a peut-être eu des échecs dans les dernières 5 ou 6 années. On n'a pas pu résoudre tous nos problèmes. C'est un pays qui sort de 30 ans de guerre. Après 30 ans de guerre, vous n'allez pas me dire que ce pays doit être une démocratie modèle. Mais dans cette région du monde, on est une démocratie qui avance bien, quand même.
Monsieur l'ambassadeur, justement, à ce propos, les rivaux de Hamid Karzai ont beau jeu alors de dire qu'une des raisons pour ne pas voter, revoter pour lui, c'est son échec sur la sécurité, puisqu'il ne se passe pas un jour depuis plusieurs semaines sans que des attentats meurtriers se produisent.
C'est vraiment
qu'est-ce que vous répondez
malheureux
à cet
pour
argument
tous que nous ayons un grand défi au point de vue de sécurité dans le pays. Le président l'avoue lui-même. On est en train de trouver tous les moyens, d'utiliser tous les moyens possibles, même la politique de réconciliation, d'intégration des Afghans, et non pas des terroristes étrangers qui sont chez nous pour sauter les hommes et les femmes et les enfants comme ils l'ont fait aujourd'hui. et où ils ont sauté des enfants au sud du pays. Mais non, mais avec des Afghans qui sont prêts à mettre les armes à terre et accepter l'ordre constitutionnel. Et s'il y a des désenchantements, bien sûr qu'il y en a des désenchantements de toutes sortes dans ce pays. Après 30 ans de guerre, il faut bien sûr accepter que tous les Afghans ne sont pas enchantés ou contents de tout ce qui se passe. Mais nous sommes prêts, en tant qu'Afghans, que ce soit le président ou les autres candidats, tous le disent la même chose. On est prêts à une réconciliation qui marche, et non pas une réconciliation qui est imposée par l'étranger sur nous. Et ça doit être une réconciliation à l'afghane.
Oui, monsieur l'ambassadeur, tout de même, encore une fois, les adversaires de Hamid Karzai ont beau jeu de dire que monsieur Karzai nous avait promis la sécurité, on ne peut pas aller voter en sécurité puisqu'il y a des enlèvements, des attaques, des attentats tous les jours. Qu'est-ce que peut répondre monsieur Karzai à ses rivaux?
Il y a toutes ces menaces. Mais vous allez voir, attendez le 20 août, vous allez voir, on va voir combien d'Afghans vont pouvoir aller voter. Moi j'espère que ce sera le maximum possible, j'espère que dans toutes les régions du pays on aura les hommes et les femmes qui iront voter, mais en même temps, et bien sûr, il y a la réalisation qu'il va y avoir des attentats, il va y avoir des menaces. Les talibans l'ont annoncé, qu'ils veulent empêcher le scrutin en Afghanistan pour être un succès. Et bien sûr, on a nos ennemis au-delà des frontières d'Afghanistan qui ne veulent pas un Afghanistan stable, un Afghanistan en voie de développement où les hommes, les femmes, les enfants ont tous les droits que les autres pays, les autres populations en ont aussi.
Sur le plan sécuritaire, Mariam Abou Zahab, c'est vraiment un échec la période Hamid Karzai, la première période?
Eh bien, l'insécurité est grandissante depuis que les talibans, en fait, ont repris l'offensive. C'est-à-dire, c'est un peu le tournant 2005-2006. Et on savait à partir de 2003, au moment où les États-Unis ont recentré leurs efforts sur l'Irak, que ça allait poser un problème en Afghanistan. L'insécurité est grandissante et elle va de pair avec l'envoi de nouvelles troupes et de nouveaux renforts. Parce que, on sait bien depuis 2001 que la solution n'est pas militaire. On commence simplement maintenant à le dire, mais on le savait dès le début. Quand on connaît un peu l'histoire de l'Afghanistan, on savait. Et donc, plus on envoie de troupes, eh bien, plus ça nourrit ce qu'on appelle l'insurrection. Localement. Et ça, c'est certain. Bon, la population dans les zones rurales dira, bon, avec les talibans, ce qui est assez terrible, on a la nostalgie parce qu'avec les talibans, au moins, on a la sécurité, on sait à quoi s'en tenir. Mais dès que des troupes étrangères arrivent chez nous, les talibans arrivent et ensuite s'entraînent des combats. Et nous, ou bien nous devons quitter nos villages, ou bien nous sommes bombardés. Donc l'insécurité ne peut que grandir. Plus vous avez de troupes étrangères et plus elles se répartissent à l'intérieur du pays. Parce que ça crée de nouvelles cibles pour les talibans, ça entraîne donc de nouveaux affrontements, et ensuite la population, comme toujours, c'est toujours la population afghane, au bout du compte, qui en paye le prix.
Mariam Abou Zahab, chercheur, enseignante en sciences politiques à l'INALCO, autrement dit aux langues orientales, et son Excellence, l'ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan à Paris, monsieur Omar Samad. On se retrouve dans une poignée de minutes, le temps d'un point de l'actualité.